Alors, est-ce que tout le monde connaît Agathe de Mignac? Je pense pas. Donc, c'est une jeune femme de 45 ans qui a 5 enfants, 22 ans de mariage avec Nicolas. Je ne sais pas où il est, Nicolas. Il est là. Alors, Agathe est professeure d'histoire au collège Le Clos Saint-Joseph. Elle pratique de nombreux engagements dans l'Église. Notamment, ils sont allés 2 ans avec la DCC à Djibouti. Ils ont 5 enfants, je l'ai déjà dit, et dont un enfant handicapé. C'est ce dont Agathe va nous parler ce soir.
Alors, c'est assez inédit pour moi d'avoir un public qui m'écoute, hein, parce que moi, je suis prof en collège, donc normalement... Faut que je mouille la chemise pour me regarder, mais là, vous avez l'air tous de me regarder. Alors, donc, effectivement, je m'appelle Agathe, donc je suis mariée à Nicolas, qui est là-bas, là, petit brin derrière. Là. Et je vais souvent parler de lui, parce qu'effectivement, les enfants, là, c'est le regard de la femme, mais dans un couple, on est normalement deux. Donc, voilà. Donc, effectivement, on s'est mariés en 97 avec Nicolas. Je vais vous raconter l'histoire. Là, je vais vous raconter 20 ans de ma vie et surtout comment... Comment j'ai perçu la présence de Dieu dans ma vie, en fait, tout au long de ces 20 ans, qui ont été une vraie aventure, en fait, vous allez voir. Donc, du coup, on s'est marié en 97 avec Nicolas. C'était un mariage plutôt un peu chic. Il y avait 400 personnes au cocktail. Il y avait Paul Habert, entre autres. Il y avait plein de prêtres, tout ça. Bon, voilà, c'est un mariage. Tout le monde nous avait dit, oh là là, c'est bien. Vous vous mariez, vous êtes chrétiens tous les deux, c'est super. Voilà, on avait même un vieil oncle qui nous avait offert nos arbres généalogiques parce qu'on était aristos tous les deux, ça plaisait beaucoup. Et on nous avait dit, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Et c'est assez drôle quand j'y pense, parce que finalement, la vie n'a pas été si simple que ça et si facile que ça. Donc voilà, donc on s'est mariés. On n'avait pas nos concours tous les deux au début, donc nos concours d'enseignants. Donc moi, j'ai commencé à être animatrice en pastorale au lycée Saint-Martin à Rennes. Et Nicolas, il faisait des suppléances. Et puis assez rapidement, je suis tombée enceinte de Malo. Notre situation n'est pas très stable. Et je me rappelle que j'allais à la clinique de la sagesse pour mon suivi de grossesse et que les femmes qui y allaient, ça m'amusait parce qu'elles étaient beaucoup plus vieilles que moi. Et elles me paraissaient très vieilles parce qu'elles avaient 35, entre 35 et 40 ans. Je me disais, la vache, elles sont vieilles pour avoir des enfants. Vous allez voir que moi, je vais avoir un enfant après, à peu près à cet âge-là. Je me suis dit, on a dû me regarder en disant, elle est vieille. Et donc voilà, donc on a eu Malo, tout allait très bien, la grossesse parfaite, il est né une semaine après terme, gros bébé, 4,2 kg, donc pour un premier c'est un peu compliqué d'accoucher, mais voilà, tout allait bien, acte par 10, voilà, les médecins disent super, donc voilà, on était tout contents, on avait un garçon, donc dans le milieu un peu aristo, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que le nom continue à être prolongé, donc j'étais très très fière, voilà, pleine d'orgueil en me disant, oh, bon, finalement c'est cool, il va faire de grandes études, on est profs tous les deux. Voilà, et tout va rouler, évidemment. Alors, cette histoire, elle est rigolote, parce que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc, voilà, donc Malo, au début, se développait très bien. Il s'est tenu assis, normalement, voilà. Et vers 8, 9 mois, 10 mois, il commençait à avoir des trucs un peu bizarres. Il était souvent très fatigué. Et le premier signe qu'a vu la famille, mais nous, on l'a pas vu, hein, c'est qu'il avait une grosse langue qui sortait de la bouche, comme ça. Et maman, qui est médecin, l'avait vu et elle s'inquiétait un petit peu. Voilà, ils n'ont pas osé nous le dire. Je pense que c'est assez compliqué de nous dire quelque chose. Donc voilà. Et donc Malo a poursuivi et il commençait un peu, entre guillemets, à ralentir, on va dire ça comme ça. Mais nous, on ne l'a pas vu et on avait envie de partir un peu à l'aventure parce qu'on était enseignants tous les deux. On s'est dit, allez, un peu d'aventure. Et donc, on a postulé auprès de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, pour partir un peu en jeune ménage, vivre une vie d'aventure un petit peu plus loin que sous le regard de nos parents. Voilà. Et on a été affectés à Djibouti. Donc, voilà, la DCC, ça a été une vraie rencontre pour nous parce que c'est une église... un peu comme Saint-Charles, hein. C'est une église de gauche, la DCC, une église sociale, une église qui a envie d'aider beaucoup les gens et à travers laquelle, enfin, c'est dans le geste humain, vous allez voir que ça a du poids, c'est que dans le geste humain qu'on va voir Dieu et qu'on va apprendre Dieu. C'est dans le corps, c'est dans le faire. Donc voilà, donc Voilà, la DCC, on trouvait ça assez cool. Les messes, c'était assez rigolo, les messes de la DCC avant de partir. C'était assez... Il y avait la messe, je me rappelle, il y avait la messe du monde arabe où tout le monde enlevait ses chaussures. Et voilà, on faisait des messes un peu en fonction des continents dans lesquels on partait. Donc nous, on s'amusait, on faisait c'est la messe qui pue des pieds. Enfin voilà, c'était léger en fait. On est parti, on était tout léger. Et on est arrivé à Djibouti, voilà. Donc moi, on avait deux postes d'enseignants au début. Puis assez rapidement, Nicolas a pris une direction qui n'allait pas très bien. Et voilà, et Malo, en fait, il a marché un peu tard, mais les médecins, avant de partir, nous ont rien dit. Donc, tout allait bien. Et à Djibouti, il a commencé à faire des trucs bizarres. Donc il avait 18 mois à peu près. Et il a commencé à faire des trucs, il dormait hyper longtemps, genre il dormait 48 heures. On essayait de le réveiller, il était léthargique. La crèche nous avait, parce qu'il avait une nourrice, mais il allait un petit peu en crèche, une crèche française. Et la responsable de la crèche nous dit, écoutez, il y a un drôle de truc. Et alors il mettait sa tête, je ne sais pas si vous avez vu le cerveau, le film Le Cerveau. Il mettait sa tête comme ça sur le côté, torticolis un peu, et la tête était comme ça. Nous, on la remontait, voilà, il ne parlait pas, tout ça, bon, très bien. Et puis, à la fin de la première année, je me dis, il y a quand même un truc, c'est bizarre. J'ai dit, écoute, je voudrais rentrer en France, je voudrais vraiment aller le faire voir par des médecins, ça ne va pas. Donc je rentre avant Nicolas. Et là, les médecins, ça ne me dérange pas que Amici babille. Hein. Les médecins l'observent, enfin le médecin généraliste qui l'avait suivi, il me dit, ouais, il y a un problème. Il était tout pâle, tout blanc, tout mou. Il me dit, ouais, il y a un problème. Et puis il me fait une batterie de prise de sang. Et puis il me dit, ah bah c'est un problème de thyroïde. Il avait des analyses très élevées, genre il devait avoir 25 ou 26 de TSH, le maximum, normalement c'est 4-5, enfin, ça dépend un peu. Voilà, donc ils me disent, bah écoutez, on va le mettre sous les Votirox et puis tout ira bien. Ok. Alors moi, je suis naturel un peu confiant, hein, donc je dis, bon, ok, si tout va bien, très bien. Je reprends mon petit bonhomme et nous repartons en Afrique. Voilà, et là, ça ne s'améliore pas du tout. Ça ne s'améliore pas du tout. Moi je me cache un peu la vérité. Je me dis, non, mais c'est bon. C'est un petit père tranquille. Nicolas est très calme. Donc je me dis, il est comme son père, il prend son temps. Voilà, c'est comme ça. Rien de grave. Tout va rentrer dans l'ordre. Alors, Nico, lui, il l'avait vu. Hein. Il commençait à se dire, il était instite. Il dit, c'est bizarre, ce petit garçon qui ne parle pas. Donc, il disait tata pour tout, quoi. Tata, tata, tata. Nos parents viennent nous voir. Maman dit, ouais, mais c'est parce que la djiboutienne, elle lui parle en somalie. Il faut absolument parler en français. Donc, elle dit, il faut parler en français à Malo. Et donc, voilà. Et j'ai assisté à des petites scènes un peu marrantes où la djiboutienne disait, alors, tu dis un chaise. Un chaise. Je lui dis, Amouna, c'est pas la peine. Continue à lui parler somalie. Donc voilà, et on rentre la deuxième année, et c'était l'année où Malo devait aller à l'école. Donc en fait, on rentre, et on est affecté, à Pipriac. Donc moi, je suis au collège de Pipriac, et Nicolas prend la direction de Sainte-Marie. Donc on arrive, on est en 2002, Malo a 3 ans et demi, on le met à l'école. Impeccable. Moi, je ne me pose toujours pas de questions, hein. je trouve pas ça bizarre qu'il ne parle pas. Tout le monde s'en aperçoit autour de moi, mais pas moi. Lui, Nico, un peu, moi, pas du tout. Je me dis, bon, on verra bien. Et je suis convoquée par la maîtresse qui me dit, Madame Mignac, il y a un problème. Donc j'étais toute seule. Elle me dit, votre enfant, ça va pas. Je vais vous montrer des dessins. Elle me sort des dessins. Et puis elle me dit, vous voyez, ça, c'est ce que fait un enfant normal. Elle dit, c'est pas un enfant fort, hein, c'est un enfant normal. Et là, c'est ce que fait votre garçon. Et Malo, en fait, il faisait des trucs qui débordaient tout de la feuille. Et là, j'entends le normal et le pas normal. Et je me dis, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'étais mais abattue. Le premier sentiment, c'est l'abattement. Beaucoup, je pleurais beaucoup, tout ça. Voilà, j'étais enceinte de notre deuxième, de Inès. Bon, et je pleurais énormément. Je voyais pas clair du tout. C'est le père Laillé qui était à Pipriac à ce moment-là. On va voir qu'il a joué un rôle un peu important. Bon, voilà. Et puis, donc, je commence à me poser plein de questions. Sans réponse. Et puis, Inès arrive. Donc, gros bébé aussi. 3,9 kg. Voilà. Et voilà. Alors, elle braillait tout le temps. Alors, Malo, lui, c'était un bébé très, très calme. Hein. Donc, en fait, il restait d'ailleurs un peu amorphe, un peu atonique. Inès, elle braillait, elle hurlait, tout ça. Et Nico, sur la table d'accouchement, il me dit, ah, mais peut-être qu'elle est normale, regarde, non, elle a l'air bien énergique. Voilà. Donc, on savait pas trop. Voilà. Et moi, j'avais super peur. Mais vraiment super peur. Je me disais, mais comment on va faire? Comment on va faire? Voilà. Et Nico, lui, il me disait, bah, je me vois lui dire, mais attends, mais comment on va faire si on en a deux handicapés? On fait comment? Puis il me dit, bah, on va l'élever, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Voilà, c'est les épaules en disant, bon, ok. Donc voilà, donc Inès grandit et j'avoue que j'étais vraiment dans la peur. Et là commence un nouveau sentiment, la colère. Là, je commence à dire à Dieu, écoute, t'es sympa, mais ton plan, il est nul. J'en veux pas. Donc j'étais très, très énervée. La paroisse de Pipriac, elle était un peu vieillissante, tout ça. J'étais pas très bien. Et donc, du coup, je dis à Dieu, écoute, c'est ton plan, tu peux te le garder. Je vais plus à la messe, j'arrête de prier. Je me dis, c'est bon, range tes idées pour moi, Seigneur, voilà. Et si tu veux me dire un truc, dis-le moi, mais voilà. Donc j'étais très en colère à ce moment-là. Et là, le père Layet est venu très souvent me visiter. Très souvent. Il venait et il disait, de toute façon, l'humain d'abord, le spirituel viendra après. Donc voilà, il venait me voir, bon, très bien. Et on faisait partie d'un groupe de prière aux équipes Notre-Dame, dans lequel il y avait Jean-Michel Baron, d'ailleurs. Et j'étais hyper en colère, et tout me mettait en boule, quoi. Tout me mettait en boule. Des remarques des autres, vous savez, aux équipes Notre-Dame, on partage nos vies. Et donc, ils disaient, ouais... mon fils redouble sa première année de pharmacie, priez pour lui, priez pour moi. Ça me mettait en folie, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui est con, lui moi, j'ai... Voilà, et j'étais hyper énervée. Et dans l'aumônier des équipes Notre-Dame, c'était le père Jean-Michel Amorio, qui a bien vu ma colère et qui, lui aussi, a pris le relais. Je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on fait un peu du clergé bashing. Là, vous savez, on dit, je parle d'agri bashing. Bon, enfin, le clergé, il s'en prend plein la gueule. On croit toujours que c'est des pédophiles en puissance. Et moi, je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu les prêtres à côté de moi, je ne serais pas devant vous à vous causer comme ça aujourd'hui. Donc, le père Jean-Michel, il m'accompagne. Et donc, le principe, c'était qu'il m'accompagnait moi, il pouvait accompagner Nicolas, s'il voulait, et il me propose d'accompagner Malo, qui commence à grandir, qui n'allait pas beaucoup mieux, qui ne parlait pas beaucoup, qui a fait deux petites sections, deux moyennes sections, deux grandes sections. Voilà, donc 6 ans de maternelle, c'est un peu inédit quand même. Voilà, et donc il m'accompagne, il me propose le sacrement de réconciliation. Et j'avais énormément de colère, donc dans le sacrement de réconciliation, je mettais ma colère. Et j'avais des gens que je jalousais. Donc je t'entendais, Paul, qui racontait l'histoire de la jalousie. Moi, j'ai beaucoup jalousé les autres. Hein. Et j'avais une de mes belles-sœurs qui a eu des enfants à peu près en même temps que les miens. Et les enfants, ils marchaient super bien. Et ça m'énervait énormément. Et puis ils disaient, ouais, regarde, un an d'avance, machin, ça m'énervait. Et donc je l'ai mis dans le sacrement de réconciliation, cette belle-sœur, très souvent, au niveau de l'accompagnement, j'ai mis dans le sacrement de réconciliation. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, les liens avec cette belle-sœur sont extrêmement bons. Enfin, je me dis que le sacrement de réconciliation, en fait, il raccroche les deux parties. Enfin, il a été la rejoindre, elle aussi, dans ce qu'elle disait, parce qu'elle était un peu brute de décoffrage, elle s'est beaucoup amendée, elle a sans doute perçu des choses. Et en même temps, bah moi, ça m'a réconciliée. Enfin, le sacrement de réconciliation, on croit juste que c'est pour soulager la conscience. C'est bien plus beau, bien plus fort que ça. Le sacrement de réconciliation, pour moi, ça rapproche les gens. Quand vous mettez quelqu'un dans le sacrement de réconciliation, eh ben, c'est comme, vous savez, le coup de la ficelle. On coupe une ficelle, et quand on fait un nœud, bah, c'est plus proche. Et ben, en fait, moi, j'ai dû la mettre dans le sacrement de réconciliation, je ne sais pas, moi, 20 fois, 30 fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai mise. Et aujourd'hui, je me dis, c'est assez rigolo... voilà, et c'est la première à prendre soin de mes enfants. Et puis voilà, puis donc arrive Jeanne. Donc en fait, je tombe à nouveau enceinte, arrive Jeanne. Et puis Jeanne, assez rapidement, grandit pas très bien comme Malo. Je me suis dit, il y a quelque chose. Donc je le dis au médecin, le médecin me dit, ah, vous êtes une mère stressée, tout ça. Mais je dis, non, je vois des trucs, là, elle dort vachement. Elle est un peu amorphe et tout ça. Donc voilà, on refait un truc, on pensait que c'était la thyroïde, hein, donc... On fait une prise de sang de thyroïde, allez hop, c'est bon. Hypothyroïdée comme son grand frère, et de deux. Bon. Moi, je me dis, c'est pas possible d'en avoir deux handicapés, hein, c'est juste pas possible. Donc, j'en ai que un, d'ailleurs, voilà, c'est comme ça, j'en ai un, et j'en aurai pas deux, et c'est comme ça, hein, d'accord, Seigneur, tu comprends, voilà. Et puis voilà, et puis un petit peu plus tard, on décide d'avoir un quatrième enfant, on serre un peu les fesses en se disant, bon, pourvu que tout passe bien. Et donc voilà, arrive Isabelle, donc Isabelle qui est née en 2008, qui a 11 ans aujourd'hui. Et pareil, Isabelle, je vois tout de suite qu'il y a un truc de travers. Je dis, il y a un truc. Donc je vois le médecin, il me dit, ah, vous êtes une mère stressée. J'accouche ici à l'hôpital de Redon. Vous êtes une mère stressée. Je lui dis, écoutez, j'en ai deux, vérifiez la thyroïde s'il vous plaît. Donc ils me font une prise de sang et je ne reçois jamais les résultats. Et 4 mois plus tard, je vais voir l'endocrino qui suivait mes enfants, enfin qui suivait Malo Jeanne, et je lui dis, il y a un problème. Elle redemande une prise de sang. La prise de sang part dans le même labo, là, le labo d'ici, là, qui est Jean-Bart. Et je reçois, bah, vous savez, il y a toujours deux colonnes, ce qui s'est passé avant. Donc, en fait, qu'à l'hôpital, ils renvoient ceci. Et là, je vois qu'elle avait une énorme hypothyroïdie, genre 18 ou 20. Et donc, j'étais furax, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. La thyroïde, en fait, si vous la soignez pas tout de suite, vous savez, quand les enfants sont petits, on fait le test de Guthrie dans le talon. Et dans les trucs, il y a la thyroïde. Et en fait, si vous la soignez pas, ça donne une maladie qu'autrefois, on appelait le crétinisme. Vous savez, l'insulte du capitaine Haddock, crétin des Alpes. En fait, c'était une maladie de manque d'iode. Et en fait, voilà. Donc, je savais, j'avais un peu lu de trucs là-dessus. Donc, j'étais furax, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et elle va être en retard à cause de ça. Donc, je voulais encore à la terre entière, au médecin. Voilà. Et sur le faire-part, on avait marqué sur le faire-part une phrase de l'abbé Pierre qui était « La vie est plus belle que la prudence ». En se disant, bon, bah peut-être qu'on en aura d'autres des comme ça, peut-être. Mais en fait, moi, je voulais pas être jalouse non plus des ventes des grossesses de mes copines. J'avais pas envie. Je me suis dit, bah, tant pis, après tout, si on en a d'autres, eh ben, on les élèvera, ce sera comme ça. Voilà. Donc ça, c'était ma face devant les autres. Intérieurement, j'étais un peu plus paniquée que ça. Et je disais à Dieu, bon, écoute, OK, mais pas deux, pas trois, hein, d'accord ? Pas deux, pas trois. Et puis, j'étais quand même super angoissée. Et un jour, je m'endors un peu angoissée. Je pleurais à moitié. Et là, je sais pas, les charismatiques, ils appellent ça... une effusion d'esprit, moi, j'ai eu une visite de Dieu. Il n'y a pas d'autre mot, Dieu est venu me voir. Je sais pas, je suis incapable de vous expliquer. C'était très fort, très calme, en même temps, très doux. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, mais t'inquiète, je m'occupe de tes enfants. Je te promets que je m'occupe de tes enfants. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai eu ça qu'une fois dans ma vie. Enfin, je veux dire, c'est des expériences un peu particulières, j'ai eu ça une fois dans ma vie. Et... j'ai jamais douté de ça. Je me suis dit, OK, tu prends soin de mes enfants, tu me le promets, de tous mes enfants. Parce que j'étais un peu inquiétée aussi, parce que Inès au milieu, enfin, je veux dire, j'avais Malo, j'avais Inès qui avait rien au milieu, et puis j'avais Jeanne et Isabelle, dont je savais pas trop ce que ça allait donner en grandissant. Bon. En l'occurrence, en grandissant, Jeanne et Isabelle étaient plutôt moins handicapées que Malo. Bon, Jeanne, elle a parlé à 5 ans, donc c'était un peu tard, mais... elle a fait qu'une petite section, qu'une moyenne section, qu'une grande section. Elle est entrée en CP, pour moi déjà c'était une victoire. Isa, pareil, donc je me dis bon, voilà. Et les enfants grandissent. Ok. Je me dis bon, on n'en aura que 4, hein, parce que franchement, c'est pas du tout raisonnable d'en avoir un 5e, donc on s'arrêtera à 4. Jusqu'au jour où bah, mes règles n'arrivent pas. Et là, je me dis oh, ouais, merde. Voilà. Il y en a un 5e qui se pointe et j'en avais pas du tout, du tout, du tout envie. J'avais les jetons. Voilà, Nico était ravi, lui. Il dit oh, génial, génial, notre petit bébé. Les enfants étaient fous de joie. Tout le monde disait ah, super, super, super. Et moi, je vous disais mais pourvu qu'il y ait rien, pourvu qu'il y ait rien. Et voilà, je ne savais pas trop si c'était un petit garçon ou une petite fille. Et alors, les enfants m'ont beaucoup aidé. En fait, Nico m'a bien aidé, mais les enfants m'ont beaucoup aidé. Et Inès m'a dit un truc incroyable. Un jour, elle me dit ah, maman, tu sais si le petit bébé, il sera handicapé ? Oh, j'ai dit, écoute, non, je ne sais pas. Donc, j'avais 40 ans en plus, donc la trisomie en plus, c'était possible aussi. Bon, enfin, la trisomie ne me faisait pas trop peur. J'avais peur d'avoir un autre malou quand même. Hein. Et voilà. Et puis voilà. Et puis, je lui dis, je ne sais pas. Et elle me dit une phrase assez extraordinaire. Elle me dit, bah, écoute, tu sais, c'est pas grave. Elle se tourne vers mon ventre et elle dit, eh oh, petit frère, on savait que c'était un petit garçon. « Eh oh, petit frère, si t'es handicapé, c'est pas grave, nous, on est super contents que t'arrives. » Voilà, les paroles des enfants, elle avait 10 ans, 9-10 ans. Aujourd'hui, elle me dit « Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. » Moi, je peux vous dire que je me rappelle qu'elle a dit ça. Et voilà. Et puis voilà, et puis la vie continue. Alors, Malo se développe hyper doucement. Et il a un truc très particulier qui est un peu casse-pied, c'est qu'il n'était pas propre. Donc, il fallait le laver tout le temps. Il était encoprésique, donc il ne retenait pas ses selles. Donc, ça nous faisait des trucs assez compliqués, à droite, à gauche. Et moi, j'en avais un peu ras-le-bol. Alors, voilà, c'était assez partagé. Nico faisait pas mal. Il le changeait souvent aussi. Enfin, il fallait le changer. Alors, on avait inventé un petit système de slip à pression pour pouvoir ne pas tout le déshabiller. Tout ça, on avait des petits trucs. Mais ça me pesait quand même beaucoup. Nicolas essayait de me faire rire. Donc, souvent, dans la maison, il y avait des petites traces de Nutella, parfois. Et Nico me disait, tu crois que c'est du Nutella ? Et donc, il goûtait comme ça. Ah non. Alors, moi, je soupçonne de... Finalement, c'est quand même du Nutella, mais je lui ai jamais posé la question et je veux pas qu'il me réponde aujourd'hui. Je trouve ça super drôle. Voilà, donc, il y avait quand même beaucoup d'humour dans cette affaire. Mais bon, moi, j'étais quand même pas... j'étais pas du tout... Enfin, il a grandi quand il commence à avoir 15 ans, 16 ans. Il fallait continuer à le laver, la puberté arrivée. Enfin, je vous fais pas de détails, mais les poils, tout ça, enfin... Voilà, et puis moi j'étais un peu gênée, je me dis de quelle manière je peux faire ça à mon fils, enfin, est-ce que, vous savez, aujourd'hui on parle d'intrusion dans le corps, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc voilà. Et puis un jour je vais à la scène, le jeudi saint. J'avais pas du tout envie d'y aller, hein. Mais je crois que Nico jouait, faut que je peux trop, j'y vais, avec un enfant qui, c'était à Bain-sur-Oust. Et il y avait un enfant qui jouait au fond, enfin qui gueulait, donc je me mets au fond de lui avec lui, je me rappelle même plus quel enfant c'est, je sais même pas si c'était Paul, quel prêtre qui, et je regarde le lavement des pieds et ça m'amuse un peu parce que j'étais un peu sarcastique, je me dis ouais c'est vraiment, on fait semblant de laver les pieds, mais enfin bon d'abord on en lave qu'un, et ils sont là autour, les pieds sont super propres, et je regarde ça et je me dis ouais c'est un peu, puis je me dis quand même le geste est beau tout de même, le geste est beau. Et voilà, puis je me dis, bon, voilà. Et puis, je me dis, mais voilà, je commence à réfléchir à ce geste. Et je me dis, putain, c'est pas mal quand même. Et puis je me dis, ouais, enfin, Jésus, il a jamais dit aux apôtres, ouais, dis donc, tu t'es encore sali. Je me disais, bah, moi, quand je lave ma loue, je disais, ouais, tu t'es encore sali. Je gueulais, j'étais pas contente. Et voilà, je me dis, finalement, Jésus, bah, il a mis son tablier, il s'est mis à genoux, il a lavé les pieds devaient être bien dégueulasses quand même. Et je me dis finalement, est-ce que Dieu me montre pas quelque chose sur cette façon-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de me dire quelque chose? Et je me dis, bah ouais, finalement, après tout, Jésus n'a pas lavé les fesses des apôtres, mais il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc je me dis, bon, ok, alors je vais faire comme Jésus, je vais me prendre un peu pour Jésus, quand je serai devant Malo, et je vais faire comme Jésus, je vais me mettre à genoux, je vais mettre mon tablier, et finalement, je vais... Bah, je vais perpétrer ce geste, voilà, mais sauf que c'était sur les fesses de Malo, mais voilà, donc je me dis, bon, allez, on y va, on fait comme ça. Et en fait, ça a tout changé. Ça a tout changé, et c'est là où je vous fais un lien avec la DCC, et le faire et l'agir, parce que finalement, je me suis mise à laver Malo en priant. Je me suis mise à laver à Malo en disant, allez, Jésus, je fais comme toi. Je fais comme tu fais. Donc, et en fait, ça a tout changé. Malo, d'abord, s'est beaucoup calmé, parce que comme il sentait que j'étais agressive, finalement, il se planquait un peu, il ne voulait pas se laver. Alors, on sentait l'odeur, et les autres qui disaient « Hey, Malo, il a fait !» Donc voilà, je ne vous dis pas les complications dans la vie quotidienne aussi, avec la famille, tout ça, bon, bref. Mais du coup, je me dis « Bon, allez, on va habiter ce geste. On va l'habiter, et on va faire. » Et en fait, ça a tout changé. Et Malo est devenu propre, d'ailleurs, pas très longtemps après, comme par hasard, comme si Dieu avait quelque chose à me dire. Donc, voilà. Bon, voilà, mon Malo grandit, les autres aussi. Ils grandissent pas très bien. Jeanne a des difficultés scolaires. Je suis convoquée par l'école qui me dit qu'il faut faire une déclaration MDPH. Il n'y aura pas question de faire des déclarations MDPH, vous rigolez. MDPH, ça veut dire maison départementale et personnes handicapées. Je dis non, j'en ai un handicapé, j'en ai pas deux. Hein, donc, voilà. Mais bon, Jeanne, c'est un peu dur quand même. Hein. Donc, je suis un peu une pugnace. Je me dis, bah voilà, elle était en CM1. Je me dis, bon, allez, je vais la faire bosser une année. Donc, c'était pendant le congé parental de Louis. Je me dis, je vais la faire bosser une année pour avant de la mettre en 6e. Et je la prends, donc je la déscolarise. Et je lui fais l'école à la maison. Tous les matins, je la lève. Je la fais bosser. Bon, je vois bien qu'elle était en CM2. Le premier livre qu'on a lu, c'est Petit ours brun dit non. Vous savez, ces petits livres cartonnés, là. Elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et une fois qu'on est arrivé à la fin, je lui dis, ah, ça raconte quoi? Je lui dis, ouais, le boulot va être important quand même. Voilà. Et puis, donc, bilan neuropsy, il me dit, il y a un problème à l'amniaque. Je dis, non, je planque le bilan neuropsy. Enfin, chaque fois qu'il y avait des trucs, je me dis, il n'y a rien. Je ne voulais pas voir. Enfin, c'est juste impossible. Donc, Jeanne rentre en 6e, c'est un peu compliqué, on aménage, tout ça, voilà. Et puis, il y avait Isabelle derrière, qui se développait pas si mal que ça. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Elle apprend à lire en CP, voilà. Et puis l'institut de CP me dit, Madame Mignac, il y a un problème avec Isabelle. Ah, merde, d'accord, encore un. Quoi. Enfin, moi, je suis désolée d'être un peu grossière, mais c'est vraiment ça. Je dis, oh, il n'y a pas de problème. Elle me dit, oui, elle a besoin de manipuler, alors que les autres sont passés à l'abstraction, vous vous rendez compte. Bon, et elle avait une petite école Montessori qui était ouverte à côté. Je me suis dit, allez, hop, manipulation, Montessori, on y va. Donc, je la change d'école. Pendant ce temps-là, j'avais Jeanne en école à la maison, Malo en IME, qui avait d'abord fait une crise, enfin bref. Donc, voilà. Et Inès là-dedans, qui fait une très bonne scolarité. apprend. Voilà. Et voilà, et donc les enfants grandissent, voilà. Et puis un jour, l'hôpital sud qui me suivait me dit « Madame Lignac, vous ne voulez pas faire des analyses génétiques ?» Alors jusqu'ici, je les avais refusées, ces analyses génétiques. Hein. J'avais dit « Non, moi, je n'ai pas envie de savoir. Ça ne m'intéresse pas. Ces enfants sont mes enfants. » Et puis je les trouvais un peu intrusifs, ils regardaient tout un truc. Ils disaient que Malo avait les oreilles grossièrement ourlées. Ça nous fait marrer. Moi, je trouve qu'ils sont très bien, ces oreilles, mais... Donc on avait viré la génétique, on s'est dit, bon allez, on a eu nos enfants, voilà. Et puis une fois que Louis est arrivé, je me suis dit, bon allez, d'accord. Elle me dit, vous savez, on a fait beaucoup de progrès en génétique. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on envoie, votre sang par coursier? On avait fait quelques recherches hein, au niveau génétique. J'avais dit chaque fois, Dieu, bon tu me dis. Et puis Dieu m'avait jamais répondu. C'est-à-dire, en fait, au bout de 9 mois, 10 mois, ah ben non, c'est pas ça, ah ben non, c'est pas ça. À l'époque, pour la génétique, en fait, on cherchait un truc. Et en fait, vous avez une analyse sur le petit bout de gène qui était concerné. Donc en fait, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. Donc j'avais un peu arrêté les analyses génétiques. Puis j'ai dit, de toute façon, Dieu, il n'a pas dû m'entendre, quoi. Moi, je pense que la prière s'est perdue quelque part. Il ne m'a pas entendu. Et ça m'arrange. Donc voilà. Et puis, donc voilà. Donc cette femme, donc, c'était l'endocrino hein, qui me dit, est-ce qu'on peut envoyer le sang à Necker? J'ai dit, je n'irai pas à Necker, mais si vous voulez envoyer du sang, si ça peut aider la science, allez-y. Donc hop. On prend le sang de tout le monde, papa, maman, les 5 enfants, et tout part à Necker. Voilà. Et j'oublie, parce qu'en fait, les analyses génétiques, c'était hyper long. J'avais beaucoup cherché quand ils étaient petits sur Internet, ça m'avait fait vraiment super peur à chaque fois. Donc j'oublie, je referme le truc. De toute façon, Dieu ne me répondra pas. Je lui avais demandé, mais il n'a pas entendu. Donc voilà. Et puis, un an et demi après, enfin, c'était assez long après. L'hôpital Necker m'appelle. Bonjour, je suis Athanasia Stupa, très joli nom, et je voudrais vous dire qu'on a trouvé la maladie génétique. En fait, Seigneur, je ne sais pas si j'avais trop envie de savoir finalement. Hein, donc voilà, branle-bas combat, j'ai les jetons, je me dis mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va nous dire qui est porteur, qui n'est pas porteur? Quel bazar ça met dans la famille, tout ça. J'ai pas trop envie de savoir. On y va quand même. Et là, ils nous disent, bah voilà, vous avez une maladie très, très rare, elle s'appelle Tango 2. Et vous êtes tous les deux porteurs sains. Et voilà, il y a 3 enfants qui sont porteurs. On dit 3, donc pas 4. Louis était tout petit, hein, il avait 1 an. Hein. Donc nous, on est en train de se dire, est-ce qu'il a pas. Je faisais piquer tous les mois pour la thyroïde, tout ça, est-ce qu'il a. Et puis il me dit, non, vous en avez 3. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire, lesquels 3 vous s'agissait? Parce que moi, j'étais, bon, sans doute que je savais, mais. Donc il me dit, bah, c'est Malo, Jeanne et Isabelle. Donc je leur dis, mais Louis n'a rien. Il dit, non, Louis n'a rien. Je me suis mise à pleurer en me disant, bah, c'est la première fois de ma vie où je vais pouvoir voir un enfant grandir sans me dire, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il va mal se développer, est-ce qu'il... J'étais vraiment, finalement, c'est pas mal la génétique. Donc voilà, et donc, mais il me dit, cette maladie, on ne connaît rien. Il y a 17 cas dans le monde, dont la moitié des cas en Australie. On avait quasiment l'autre moitié. Et voilà. Et puis, voilà. Et puis on cherche des trucs sur Internet. On ne trouve rien. Donc voilà, je remballe le truc. Et puis, à Noël dernier, je retape Tango 2. Je me dis, tiens. Et là, je tombe sur des trucs. Je me dis, tiens, c'est dingue, ça. Je trouve des trucs en anglais. Alors, vive Google Traduction. Hein. On fait tech, clic droit, Google Traduction. Et je trouve toute une communauté de gens sur un site qui s'appelle Tango 2 Research. Bon, ok, je regarde. Et là, c'est toute l'histoire de mes enfants, tout ça. Voilà. Et j'apprends qu'en fait, c'est une maladie métabolique, qu'en fait, c'est un problème d'assimilation des protéines, qu'en fait, voilà. Et en fait, parallèlement, Isabelle, elle allait de moins en moins bien. Hein, donc je me disais, merde, Isabelle, ça va pas trop bien. À un moment de la puberté, t'es fatiguée, tout ça. Donc je commence à me renseigner. Je me rends compte que effectivement. Eh ben, en fait, c'est une maladie neurodégénérative, qu'en fait, il y a des enfants qui sont morts. Donc finalement, il y en a bien plus qu'on croyait. Il y en a une cinquantaine dans le monde. Là, maintenant, il y en a une centaine, parce qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas de faire des génomes, en fait. C'est comme le coronavirus, ils font plein d'analyses. Et donc, du coup, là, maintenant, il y en a une centaine. Et en fait, là, il y a 15 jours, il y a une petite fille de 4 ans qui est morte. Quoi. Donc, du coup, waouh. Et là, régulièrement, il y en a 4-5 qui meurent par an sur les 100. C'est quand même beaucoup, hein. Donc voilà, je me dis, ah ben dis donc, je découvre que finalement mes enfants, ils ont une maladie génétique gravissime et ils peuvent mourir. Alors ça, je m'étais dit qu'ils pouvaient être handicapés, mais alors peuvent mourir, je n'avais pas du tout. Et voilà, donc premier truc, c'est merde. Et puis après, je me dis, mais finalement, on a bien vécu pendant 20 ans, on en a profité pendant 20 ans de ses enfants. Voilà, ils sont hyper gentils. Hein. Ils sont très gentils, ils sont assez faciles à vivre. Et je me dis, mais après tout, finalement, Dieu m'a donné. C'est Dieu qui a donné cette vie-là, j'aurais pu ne pas avoir d'enfant. Voilà, et je me dis, finalement, c'est Dieu qui la reprend aussi. Enfin. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont perdu un enfant, mais en fait, on peut perdre un enfant pour 10 000 autres raisons que Tango 2. Donc voilà, aujourd'hui, je me dis, mais finalement, je fais confiance à Dieu. Donc j'ai eu vraiment très peur pendant très longtemps. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur. Et je pense que c'est là où Dieu agit dans ma vie. C'est qu'aujourd'hui, je me dis, mais Dieu, fais ce que tu dois faire. Parce que finalement, tu m'as super bien accompagnée tout au long de ta vie. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai rencontré des mamans, d'autres mamans d'enfants handicapés avec qui on s'est hyper bien entendu. J'ai rencontré beaucoup de bienveillance, beaucoup de gens super gentils. Voilà. Et je me dis, mais finalement, Dieu, il a pris soin de moi à travers vous, à travers toutes les rencontres que j'ai faites. Vous ne devez pas vous rendre compte, mais je suis persuadée qu'en fait, vous êtes les mains de Dieu, vous êtes les yeux de Dieu, vous êtes les jambes de Dieu. Et que en fait, finalement, voilà, je pense que aujourd'hui, en fait, j'ai pas tellement peur. Pourtant, là, avec le Covid-19, j'aurais avoir super peur parce qu'en fait, le cœur peut être atteint. En fait, j'ai pas très peur parce que je me dis, ils sont en vie jusqu'ici. On a vécu une belle vie, voilà. C'est pas en s'inquiétant qu'on rajoute un jour à sa vie. Donc, je me dis, voilà. Mais alors, par contre, j'en profite avec beaucoup de bonheur. Et en fait, maintenant, je me prends plus la tête pour des bêtises, quoi. Je suis tellement contente qu'il soit vivant. Donc tous les jours, je suis contente qu'il soit vivant. Je me dis, finalement, il y en a d'autres qui sont partis. Moi, les miens, ils sont là. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont pas toujours malins. Ils ont des petits QI. Ils sont pas... Voilà, mais ils sont hyper gentils. Et la vie est finalement assez relaxe hein, avec ces enfants-là. La crise adolescente, c'est bien plus simple que quand on clash et qu'on dit des trucs horribles en disant des paroles assassines. Moi, ils parlent pas super bien tous. Enfin, voilà. Jeanne est quand même en troisième. Hein, donc Jeanne, elle s'en sort pas mal. Et elle va faire un CAP service à la personne. Elle voudrait s'occuper. Voilà. Malo est à l'Arche, l'Arche de Jean Vanier, qui a un super truc. Enfin, voilà. Et Malo est très heureux. Et Malo rend beaucoup de bonheur autour de lui. Je vois beaucoup de gens qui me disent parfois j'ai l'impression d'être que la mère de Malo. Ah, vous êtes la mère de Malo ? Oui, j'ai une vie aussi à côté. Mais je suis la mère de Malo. Et voilà, Malo, vraiment. Convertit les cœurs, quoi. Jeanne, ma petite Jeanne, en troisième, en fait, elle est tout le temps souriante, elle a tout le temps la pêche. Je vois d'autres enfants qui ont l'air hyper angoissés, mais moi, Jeanne, pas du tout. Elle dit, est-ce que tu crois que je vais avoir mon brevet? Je lui dis, j'en sais rien. Elle me dit, moi non plus. On n'en sait rien. Si elle a, c'est génial, et si elle a pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de dire, elle est vivante, elle va faire son œuvre. On a chacun notre petite mission dans notre vie. Chacun de mes enfants ont leur mission. Ma petite Inès, elle est partie aux États-Unis, donc. Voilà, elle a sa mission aussi. Et voilà la morale de l'histoire. J'ai envie de dire la morale de l'histoire, c'est qu'on a tous, en fait, notre mission sur la Terre et que ce n'est pas du tout lié à l'intelligence. Ce n'est pas du tout lié à la capacité intellectuelle, la capacité physique, la capacité... il y en a qui sont malades et qui font beaucoup de bien autour d'eux. Et voilà. Et donc, je pense qu'en plus, aujourd'hui, dans l'atmosphère actuelle, il ne faut pas oublier ça. Et qu'il y a des vies qui sont courtes, mais qui sont belles. Voilà, j'aimerais bien que la vie de mes enfants soit pas trop courte, mais ça m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est lui qui a donné la vie, et si peut-être à Dieu la reprendre, j'ai envie de dire, je le laisserai faire parce que c'est pas mon boulot, c'est le sien. Moi, mon boulot, c'est d'élever mes enfants et le mieux possible et qu'ils donnent du bien autour d'eux. Donc pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Donc voilà. Fin de l'histoire. Amen. Je vous refais mon bilan dans 20 ans, mais là, c'est 20 ans de vie que je vous ai résumé en combien de temps ? Une demi-heure.
Vous avez des questions à poser à Agathe?
On peut poser toutes les questions.
Toutes les questions.
Est-ce que vous avez eu à souffrir du regard de certains sur vos enfants, ou de paroles de certains sur vos enfants?
En fait, on est écorché vif quand on a des enfants comme ça. Donc en fait, c'est normal qu'on ait mal. Oui, mais en fait, c'est impossible de ne pas avoir mal. La douleur, en fait, elle fait partie de ça. Enfin, elle fait partie... D'ailleurs, la douleur fait partie de toutes les vies. La douleur fait partie de toutes les vies. Donc oui, j'ai eu mal. Moi, plus que Nico, je pense. Hein. Oui, j'ai eu mal, mais je pense que moi, j'ai dû faire mal aussi aux autres. Enfin, oui, bien sûr. Alors, le regard sur le handicap... Inès me disait que quand elle était petite et que Malo était en clisse, il y avait des enfants qui lui balançaient des cailloux en disant « ton frère est handicapé ». Donc elle en a beaucoup souffert. Moi, non, il y a eu des paroles un peu maladroites, mais en fait, c'est parce que j'étais furieuse, en fait. C'est peut-être pas la faute des autres. Voilà, donc je sais pas. Aujourd'hui, je crois qu'on peut beaucoup moins me blesser qu'avant, même si je reste assez fragile. Je pense que s'il arrivait quelque chose à un de mes enfants, je rebasculerais dans une forme de fragilité. Mais est-ce que la force, c'est bien ? Est-ce que la force, je viens très humble là-dessus. Je sais pas si être fort, c'est bien. En fait, je sais pas si être fort, c'est bien aux yeux de Dieu, s'il n'aime pas notre faiblesse. La parabole des talents, Dieu, il vient nous voir dans ce qui nous fait mal, en fait. Enfin, vous savez, la parabole des talents, il dit, oh bah oui, c'est comme tu es très intelligent, c'est ça tes talents. Mais pas du tout, en fait. Dieu, il vient dans le petit endroit qui pique, hein, le petit endroit qui fait mal, le petit endroit qui est douloureux dans nos vies, en fait. C'est là où il vient. Hein. Parce qu'en fait, là, on saigne, en fait. Donc, en fait, quand on saigne, le virus peut rentrer là, parce qu'il y a une coupure, mais Dieu aussi. Donc, voilà, donc Jean-Michel, je sais pas. Oui, il y a des gens qui ont dit des trucs maladroits, mais aujourd'hui, je leur pardonne volontiers. Je pense qu'on pourrait dire, ah ouais, Agathe, elle a dit des trucs maladroits à quelqu'un d'autre, sans doute. C'est bien, c'est aussi.
C'est vraiment un témoignage étonnant.
Qu'est-ce qui vous surprend ?
D'avoir le courage d'accepter cette difficulté,
Mais je pense que c'est Dieu qui m'a aidé.
Oui, c'est bien de le ressentir, de le ressentir très bien dans votre témoignage.
Je pense qu'il n'aurait pas été là. Je pense que je serais bien plus en colère. Et je vois des mamans qui sont encore très en colère. Je rencontre des mamans parfois, parce qu'on dans le milieu du handicap, on rencontre pas mal d'autres mamans, et on est tout de suite copines avec les autres mamans d'handicapés. Hein. Ça, c'est tout de suite. Les milieux sociaux, on s'en fiche, tout ça, elles deviennent copines, quoi. Et donc, y a des mamans qui sont encore très, très en colère, mais après, ça met du temps, quoi. Moi, ça a été assez rapide, finalement, quand j'y pense. Bien, ça m'a semblé long, quand même. Mais je pense que, ouais, je pense que c'est Dieu qui apaise les cœurs. Enfin, quand on parle de guérison, en fait, c'est pas forcément une guérison physique, en fait. C'est une guérison intérieure, quoi. Donc, effectivement, bah,
Malo ne souffre pas par rapport à
d'autres enfants. Ceux qui le connaissent. Alors, l'Arche, c'est une star. Alors, Malo est un peu une star. Hein. Il fait de la pub, il est sur le flyer de l'Arche, tout ça. Il adore qu'on l'acclame, il est danseur à Capetim, voilà, et c'est assez rigolo. C'est comme ça que des fois qu'on me dit « Ah, vous êtes la maman de Malo ?» Je dis « Ouais, ouais. » Mais non, il est très bien dans sa peau, Malo. Bon, de temps en temps, il est très en colère, mais enfin, il a 21 ans. Je veux dire, il y a des fois où il est chiant, il y a des fois, enfin, c'est un jeune adulte, quoi. Enfin, il y a des fois où. Alors, les enfants reçus le sacrement des malades, je raconte juste un truc, parce que c'est assez rigolo. En fait, quand on a su que c'était un peu embêtant, mortel, tout ça, j'ai appelé Paul, je lui ai dit, écoute, franchement, j'aimerais bien quand même qu'ils reçoivent le sacrement des malades. Surtout Isabelle, qui me semblait pas très en forme. Elle va un petit peu mieux, là. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, et surtout pour Isabelle, puis il y avait pas mal d'examens et tout ça. Et donc Paul vient, et donc j'ai dit aux enfants, bah écoutez, vous allez recevoir tous les trois, parce que vous avez tous les trois la maladie, et voilà, et puis ça va vous donner de la force, donc Paul explique ça aux enfants, et Malo ne veut pas venir. Donc en fait, j'avais dit un peu à Jeanne et Malo, écoutez, vous allez accompagner Isabelle, parce que pour Isabelle c'est compliqué, donc elle va pas être toute seule, voilà, mais de toute façon ça vous fera pas de mal, donc voilà. Et donc Malo ne veut pas venir, Malo met sa musique à fond, Malo... Et donc voilà, donc du coup Malo ne reçoit pas le sacrement des malades, donc Isabelle le reçoit, Jeanne le reçoit, elles étaient très intimidées. Isabelle avait choisi mon père, je m'abandonne à toi. Des fois les enfants nous donnent des leçons. Hein. Bon, et puis voilà, et puis donc Paul repart et on passe à table. Donc on dit à Malo, c'est bon, Paul est parti, tu peux descendre. Et puis il dit à Malo, mais alors tu veux pas recevoir le sacrement des malades ? Il vient parler un peu comme ça, Malo. Je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, je veux pas tomber malade. Ah, donc il est sacrément des malades égale malade, donc lui il dit hop, père Paul, chut, dégage, moi je suis pas malade, donc j'ai pas besoin de sacrement des malades. Donc voilà, c'est juste donc, la façon dont Malo vit ça. Voilà. Isabelle c'est plus compliqué, hein, mais après Isabelle c'est ma troisième qui a été malade, donc je pense aussi que ma façon dont l'a acceptée quand elle était petite a été beaucoup plus douloureuse. Enfin, j'avais vraiment, vraiment pas envie d'en avoir un troisième comme ça. Hein. Donc en fait, Isabelle, il y a une sorte de, voilà, j'ai une sorte de rejet, tout ça. Là, on reconstruit des choses, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Quoi. Quand j'étais petite, je me disais, mais non. Donc en fait, on l'a même beaucoup bousculé. Hein. On disait, ah non, hein, c'est bon, hein, tu peux le faire. Hein, vas-y, mets tes chaussures, hein, et puis plie-toi. Et en fait, ça fait des douleurs musculaires. En fait, c'est des problèmes musculaires. Donc ils ont des douleurs musculaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'Isabelle, en fait, elle avait super mal, quoi, tout le temps. Maintenant, je lui remets ses chaussures et en fait, tout va mieux, quoi. Donc voilà, mais c'est toujours l'évangile des mains, c'est l'évangile de la parole. C'est... Pour moi, en fait, l'évangile, c'est habiter dans notre corps, quoi.
Vous pouvez être évangile, soyez.
Soyez évangile.
Merci.